Nous sommes le lundi, mardi 21 juin, et nous allons continuer le thème de la politique. Que dit la Bible de la politique ? L'autre fois, nous avons déjà parlé de ce sujet. Nous avons vu que Dieu a créé l'homme à son image, mais que l'homme a détérioré cette image, a trahi sa vocation, son image. Le fils de Caïn, le petit-fils de Adam, a créé la première ville, Genèse chapitre 4, verset 17. Et nous avons vu le problème spirituel de Caïn, la jalousie, la violence, l'égocentrisme, la religion des mérites. Le deuxième point fut Genèse chapitre 6, verset 4, les unions sexuelles débridées, la débauche et des règlements, le refus de la sainteté, l'apparition des héros fameux de l'Antiquité, comme Alexandre le Grec, Nebuchadnezzar, etc. Et la puissance des villes, et bien sûr les abus de pouvoir de ces villes. Nous avons vu un troisième point, Genèse chapitre 6, verset 5, la méchanceté des hommes et leur force politique néfaste, de grande envergure, a déplu souverainement à Dieu, et en voyant cette humanité déchirée par le besoin de pouvoir, le besoin de violence, Dieu a décidé, point 4, Genèse 6, verset 8, jusqu'au chapitre 7, verset 9, d'envoyer un homme juste, un homme qui s'est repenti pour ses péchés, Noé, et qui a prêché la repentance, et qui a aussi désavoué la conduite des hommes. C'est bien sûr une rupture historique entre l'homme et Dieu, elle est voulue par Dieu. Dieu, si les hommes désavouent Dieu, Dieu aussi désavoue l'homme. Et le contentieux s'élève à un point que Dieu décide de provoquer le déluge. Mais il laisse une alternative, celle de monter dans l'arche, de choisir un autre chemin. Le cinquième point, c'est dans Genèse chapitre 9, versets 5 à 6, c'est l'apparition du droit de l'homme, du droit de la peine capitale, le droit de mort, avec alibi religieux en plus. C'est une société extrêmement dure et on voit que le légalisme va à l'extrême. Le sixième point, Genèse chapitre 10, nous voyons le développement des ethnies, des tribus, des nations, bien sûr avec leur territoire et leurs dieux respectifs, et donc le développement des leaderships, des rois, des princes, et bien sûr des armées et de la politique. Un amalgame est fait avec la foi et la politique. Le plus beau cas, c'est Nimrod et Babel, avec la tour qui veut s'égaler à Dieu. En Genèse 11, nous sommes toujours en sixième point, la réussite éphémère de cette civilisation unifiée, universelle, la réussite éphémère d'une religion syncrétique, mélangeant politique centralisatrice et syncrétisme religieux unificateur. Tout cela nous fait penser à l'inspiration de Satan que nous voyons décrit dans Ézéchiel 28 et dans Ésaïe 14. Satan a toujours aimé s'égaler à Dieu et s'élever, se faire adorer et créer un système qui s'insurge contre Dieu. Au chapitre 7, le point 7, c'est le conflit de la royauté de Dieu et de la royauté humaine qui est dévoilé dans la prédication du prophète Samuel auprès du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël veut un roi comme toutes les autres nations et bien sûr mélanger pouvoir et religion. Le prophète est un homme de Dieu qui va dénoncer ce mélange de foi et de religion. Et surtout d'un homme qui dirige le peuple avec des vues humaines, qui va entraîner les jeunes gens à la guerre, qui va utiliser les jeunes femmes à ses fins personnelles, qui va prendre une partie du revenu de tous, qui va provoquer des guerres pour étendre son pouvoir et son territoire. Face à ce conflit royauté de Dieu et royauté humaine, charnelle, il faut savoir que la Bible annonce un roi serviteur, un Messie, dans Ésaïe. À de nombreux passages d'Ésaïe, nous pouvons constater que Dieu a prévu un autre type de roi. Bien sûr, ces textes correspondent à Jésus de Nazareth. Et pourquoi ce roi serviteur, ce roi humble, qui n'exerce aucune vindicte au niveau des femmes, au niveau des guerres, au niveau des territoires, qui ne s'élève pas par lui-même pour écraser les autres? Eh bien, c'est parce que Dieu veut un roi à son image, un roi tel qu'il veut voir les hommes se comporter. Un roi qui a de bonnes relations avec Dieu et de bonnes relations avec les hommes. Il veut voir un royaume où les hommes ont des relations respectueuses entre eux et à l'égard de Dieu. Et c'est bien sûr un miracle pour l'humanité qui est annoncé là, un futur leadership mondial à venir qui ne ressemble en rien à celui de Babel et de Nimrod. Et même de Enoch. Le point 8, c'est l'antinomie dont Jésus s'est insurgé contre l'amalgame entre César et la religion. Nous savons que les responsables religieux ont dit que pour faire exécuter Jésus, nous n'avons d'autre roi que César. Nous savons que Jésus, en voyant une pièce de monnaie, a dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Eh bien, avec Jésus apparaît un véritable contentieux entre le pouvoir divin et le pouvoir humain. Et le refus de la part du Fils de Dieu de régner dans l'animosité, de régner dans la vindicte, en maudissant les hommes, en maudissant les méchants. Jésus va donner sa vie sur la croix pour sauver tous les hommes. Et donc, Jésus nous annonce clairement cette fois-ci que la politique ne l'intéresse pas. Lorsque Satan lui propose de se mettre à genoux dans Matthieu chapitre 4, de l'adorer pour recevoir toutes les gloires et tous les pouvoirs de ce monde, il refuse. Lorsqu'il est devant Pilate, il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». De même pour les finances. Jésus n'a jamais voulu de ses finances pourries, qui fonctionnait dans le temple et qui il a toujours cherché à respecter les principes de son époque, payer les impôts et en même temps honorer Dieu. Donc la non-violence de Jésus a posé question à tous ses disciples et encore aujourd'hui elle pose question. Jésus fait lui-même l'annonce prophétique d'une politique mondiale qui sera en contradiction avec Dieu et qui se moquera clairement de Dieu. Mais il annonce aussi qu'il régnera. Il annonce aussi qu'il mettra de côté l'Église, on appelle cela l'enlèvement d'Église, pour la préserver de cette période très difficile avant son règne où Satan va redoubler de haine et entraîner beaucoup d'hommes à sa suite. Période appelée tribulation. Le point 9, il s'agit d'éléments d'histoire parlant de la chrétienté. Le point 10, c'est le conflit entre Satan et Jésus-Christ. Le point 11, un chrétien peut-il faire la politique et comment? Voilà. Nous sommes donc au point 9, chrétienté constantinienne, en 313 jusqu'à nos jours. Apparemment, la chrétienté fait alliance avec la politique et avec la vue du pouvoir. Il n'est pas dit que tous les chrétiens sont d'accord avec cela, mais toujours est-il que il faut se rendre compte que beaucoup de personnes portant le nom de chrétiens fonctionnent comme à l'époque de Constantin. Donc en 313, l'empereur est dans une bataille où il va perdre la face, il va échouer. Lorsque un chrétien lui dit de prier, chrétien, le Dieu des chrétiens, et lorsque Constantin gagne la bataille, il se fait chrétien. Chose bizarre, c'est que 12-13 ans après sa conversion, il fait assassiner son beau-père. C'est que beaucoup plus tard, il se fera nommer ecapostoli, c'est-à-dire apôtre, avec les apôtres. Donc on voit que cet homme a utilisé le christianisme à des fins personnelles, à des fins charnelles, à des fins politiques. Et que le christianisme s'est laissé gagner par cet homme qui a offert de nombreux avantages à l'Église. C'est l'apparition d'un christianisme sans repentance, sans conversion, sans nouvelle naissance, sans autorité de la Bible. C'est l'apparition de l'apostasie qui est décrite dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 et verset 7. Cette apostasie, c'est un christianisme politisé et où toute la grâce est évacuée, la grâce de Jésus-Christ et la conversion. Avec Constantin apparaît un salut pour tous, par le baptême, sans la foi. Avec Constantin apparaît le soutien des hommes, des chrétiens, des hommes religieux, au choix politique des Césars. Apparaît l'émission des Césars, donc des empereurs, dans la doctrine du salut, dans les conciles, dans la direction de l'Église. On finit par persécuter les vrais convertis, les vrais croyants, qui sont considérés comme des récalcitrants. La structure de l'Église n'est plus une structure spirituelle, mais une structure politique, hiérarchisée, semblable au monde. Et il n'est pas question, il ne fait pas bon ne pas être chrétien. Donc la règle de la conformité, de l'unanisme, l'unanimisme religieux et politique, du monde père. Finalement, ce qu'avait demandé Satan à Jésus, « Mets-toi à mes pieds, je te donnerai les gloires, le pouvoir, etc. » Le christianisme, en 313, l'accepte, contrairement à son fondateur. L'Église est donc en conflit avec son Seigneur Jésus. Outre le fait que Satan est très hostile à Jésus, Jésus avait été lui-même très prudent avec le pouvoir politique. Et il avait annoncé beaucoup de grandes difficultés pour son Église, face aux instances du monde, face aux villes, par exemple, avec Chorazin, Capernaum, Bethsaïda, qui avaient refusé la conversion alors qu'il était venu. Et il avait dit que Sodome et Gomorre seraient moins jugés, moins durement jugés lors de son retour, lors du jugement. Donc les villes sont souvent des lieux de conformité, de conformisme contre Jésus. À Gadara, lorsque Jésus a guéri l'homme possédé d'une légion de démons, c'est toute la ville qui vient le prier de s'en aller. Dans les tribunaux, face au chef politique, Jésus est toujours resté calme, est toujours resté patient, persévérant, parlant son Père des cieux, et ne cherchant jamais, jamais à recevoir un quelconque pouvoir. Mais il a annoncé dans les évangiles que les chrétiens auraient des difficultés avec les tribunaux. Et pourtant, il a demandé d'honorer les rois, de respecter les autorités. Jésus annonçait la difficulté de bonne relation avec la patrie. Ses frères et sœurs, sa mère, sa patrie ne l'ont pas bien accueilli. On a même voulu, dès sa première prédication, le lapider à Nazareth. Donc la patrie n'est pas forcément le meilleur lien pour Jésus. Ainsi que pour la famille, le conflit Jésus avec la famille, quand Jésus dit que il faut choisir, il faut le choisir, et l'aimer plus que sa famille, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, qu'il faut faire la volonté de Dieu, cela pose un choix et forcément un conflit de valeurs. Jésus a vu ses disciples qui aspiraient à des places de choix, assis sur un trône à gauche et à droite, les fils de Zébédée. Il a vu Pierre qui voulait être le chef à tout prix. Et Jésus a toujours brisé chez ses disciples cette aspiration. Dans Matthieu 22, il dit clairement, vous êtes tous frères, un seul est votre directeur, Jésus-Christ. Jésus avait aussi annoncé la difficulté, le monde qui rentre dans l'église, livré, qui s'installe dans le champ et qui veut étouffer le blé. Par la Bible, l'église de Jésus-Christ est dans sa nature apolitique. Elle ne désire pas régner sur la terre. Elle se considère comme du sel jeté sur du fumier, se considère comme du levain, se considère comme une petite lumière mise sur le boisseau ou sur un chandelier. Elle se considère comme une servante, et Jésus lui-même a lavé les pieds de ses disciples. Jésus a insisté en disant que son royaume agissait discrètement. Il n'y a donc pas chez Jésus une aspiration au pouvoir temporel. Et il n'a pas du tout insisté ou suscité ses disciples pour la prise d'un pouvoir temporel. Nous ne pouvons donc pas comprendre, du point de vue de la Bible, qu'il y ait eu dans l'histoire des princes-évêques, des papes qui en même temps avaient des armées et étaient considérés comme le remplaçant de l'empereur romain après la chute de l'Empire romain et appelés souverain pontife, le titre accordé à l'empereur romain. Nous ne pouvons pas comprendre que des rois comme Louis XIV, même Bonaparte, sont sacrés rois, sacrés empereurs, de la part de Dieu, qu'ils soient de droit divin. Qui en dehors de Jésus est de droit divin? Personne. La chrétienté a donc trahi profondément en mélangeant politique et religion. Et si nous retournons au point de départ de la civilisation mésopotamienne, les villes se battaient entre elles et considéraient que leurs dieux se battaient entre eux. Nous avons vu que dans toutes les grandes civilisations, les dieux prenaient parti pour ou contre les voisins, provoquaient des guerres. Et les rois devaient s'incliner devant l'autorité de leur Dieu. Si ce n'est le contraire, les rois faisant dire à leur Dieu ce qu'ils voulaient dire. Ils voulaient. Donc le christianisme constantinien, jusqu'à la veille du XXIe siècle, a commis ces graves égarements. Toute l'Europe a été déchirée en 1914-1918, en 1940-1945. Par des troupes qui se disaient toutes chrétiennes. Et dans chacune des troupes se trouvaient des prêtres ou des pasteurs pour prier, pour le salut des âmes et pour la victoire. Lors de la colonisation de l'Afrique et de l'Asie, il fut de même. Notre Dieu chrétien était meilleur que le Dieu des autres. Et nous devions être les meilleurs. Et nous avions donc la bénédiction de notre Dieu et de nos autorités religieuses. À titre d'exemple, Pie XII a béni sur la place de Rome, la place Saint-Pierre, les troupes de Mussolini pour envahir l'Éthiopie, ancien empire chrétien, envahir un peuple chrétien avec des mitrailleuses et des tanks, alors que ceux-ci n'ont que des flèches, des lances, des épées, qui sont chrétiens eux-mêmes. Voilà l'aberration. À quoi se résume l'aberration de l'ère constantinienne? Encore aujourd'hui, pour la Russie, il fait bon être orthodoxe. Pour l'Italie, la France, l'Espagne, il fait bon être catholique. Pour d'autres pays, il fait bon être musulman. Toujours, Dieu est utilisé pour des causes humaines, des causes passionnelles. Jésus a refusé de rentrer dans cette démarche. Voyons de plus près l'image de l'Église que Jésus a donnée, pour aujourd'hui comme pour hier. Matthieu 18, verset 20. « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ne voyons pas qu'il y a de pape, de cathédrale, de basilique, d'évêque, d'organisation sacerdotale. D'organisation hiérarchique. Il y a une vie spirituelle et une vie de communion avec Christ. Regardons dans Matthieu, au chapitre 23, versets 8 et 9, 10. Vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Donc, ce verset, le plus grand parmi vous sera votre serviteur, il s'agit donc bien sûr de Jésus-Christ. C'est lui qui véritablement fut l'Ebed Yahvé, le serviteur de Dieu. Regardons dans Matthieu, chapitre 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, sur vous recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Joug, oracle en grec, qui veut dire parole, enseignement. On voit que Jésus a ce pouvoir de nous présenter à Dieu, un Dieu non pas de pouvoir, de conflit, de tiraillement, comme les dieux des religions, mais un dieu d'amour, un dieu spirituel qui veut notre sainteté et qui veut notre repos, c'est-à-dire notre repos en Dieu, notre bonheur en Dieu. Regardons Luc chapitre 9 verset 45. Luc chapitre 9 verset 45. Les disciples ne comprenaient pas cette parole, donc les paroles de Jésus concernant sa mort sur la croix. Elle a été volée pour eux afin qu'ils n'en eussent pas le sens et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Le gros point, la pierre d'achoppement qui concerne Jésus est sa mort sur la croix, son sacrifice. Pour l'islam, c'est clair, il n'y a pas de sacrifice sur la croix. Pour le judaïsme aussi, la part de Jésus de Nazareth. Pour beaucoup de personnes dans la chrétienté actuelle, la croix, la mort de Jésus et sa résurrection ne sont plus compris. C'est la grosse pierre d'achoppement actuellement, même au sein du christianisme. Regardons dans Marc, chapitre 9, Marc chapitre 9, verset 33. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Toujours cette folie de la grandeur, du pouvoir, de la reconnaissance de soi. Alors il s'assit au plat des douze et leur dit : « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Combien nous voyons aujourd'hui que les manifestations officielles des grands personnages dits chrétiens est tout à fait le contraire. Regardons Marc chapitre 7, verset 21. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Nous voyons que Jésus est venu pour purifier l'homme, pour le sanctifier. Il n'est pas venu pour développer les pulsions mauvaises de tous les humains. Regardons dans Luc de nouveau. Au chapitre 7, verset 28. « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. » Donc Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Donc, quelqu'un qui a accepté que Jésus meurt sur la croix pour lui, qui a confessé ses péchés, qui a reçu le Saint-Esprit, est beaucoup plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi ? Plus grand par celui qui vient habiter dans ce croyant, c'est-à-dire le Saint-Esprit. La personne n'est pas plus grande en une comparaison charnelle, mais par une comparaison spirituelle. La présence du Saint-Esprit et le fait que la personne soit déclarée juste dans le ciel, son nom écrit dans le livre de vie, et soit pardonnée par le sang de Jésus, fait de cette personne une personne sauvée, élue. Elle est donc supérieure à l'économie de l'Ancien Testament. Regardons dans Luc au chapitre 6, verset 17. Jésus s'est ouvert à tous les hommes, et sans distinction, bien qu'il ait parlé en priorité aux Juifs, ce n'était pas pour haïr les autres. Il descendit avec eux, avec ses disciples, et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples, une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée maritime de Tyr et Sidon. Donc les Phéniciens, les Libanais, étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs étaient guéris, toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Ce n'est pas une force politique, c'est la force divine, c'est la puissance créatrice et rédemptrice de Jésus. Dans Luc, au chapitre 4, verset 25. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé, 3 ans et demi, donc pas de pluie, à la demande d'Élie, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, de façon à briser Acab et Jézabel et leur armée, et tous leurs sacrifices humains, eh bien, cependant, Élie ne fut pas envoyé vers aucune d'elles, donc des veuves du pays d'Israël, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon, donc une étrangère. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien, un général de l'armée ennemie de Syrie. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Donc la foule veut précipiter Jésus et le tuer. Et en fait, nous voyons que Jésus a un discours apolitique. Il ne favorise pas le patriotisme, le chauvinisme, la rivalité ethnique. Il essaye d'ouvrir le cœur de ses contemporains à l'amour des autres, parce que chacun des autres, de quelque nation qu'il soit, est une créature de Dieu. Il mérite autant de faveurs. Jésus a dit, il fait du soleil pour tous, pour les bons et les méchants, il pleut pour les bons et les méchants. Cette façon de faire de Jésus a bien sûr provoqué la colère des personnes. Regardons à 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Versets 7 et 10. Pour que je ne sois pas empli d'orgueil à cause de l'excellence des révélations qui m'ont été faites, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Jésus-Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Nous voyons dans ce texte que l'exaltation de la puissance et de la force n'existe pas. Et Paul, qui subit beaucoup d'humiliations et de souffrances, estime que Dieu peut avoir une grande puissance dans sa vie, par sa prédication, par ses lettres, par son exemple, pour sauver des âmes. Et la finalité de la vie et du ministère de Paul, c'est le salut des âmes. Parce que la finalité du royaume des cieux, c'est le salut des âmes. Parce que la finalité de la venue de Jésus, c'est le salut des âmes, c'est la rédemption. Regardons au chapitre 13, verset 4. Jésus a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Donc, la faiblesse de Jésus, l'absence de pouvoir politique, l'absence d'un pouvoir énorme, même au niveau physique, a permis à Dieu d'agir avec puissance au-delà des apparences de Jésus, de faire des miracles, de chasser des démons, de ressusciter Jésus. La puissance sur cette terre n'est pas nécessaire pour la manifestation de la grandeur de Dieu. Si tous les croyants avaient une énorme grandeur venue de Dieu, nous tomberions dans l'occultisme. Nous verrions la grandeur de l'homme et pas celle de Dieu. Dans le christianisme, Dieu veut révéler sa grandeur par la petitesse de ses enfants. Donc l'ère de Constantin, 313 jusqu'à nos jours, est une tromperie, un acte malsain et malhonnête de l'histoire. Le christianisme n'a jamais existé pour être triomphaliste et majoritaire. Il pourrait être le levain dans la pâte. Regardons au chapitre 13, verset 8, 2 Corinthiens. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Donc la puissance du chrétien, c'est la pureté de son évangile. C'est la pureté de sa connaissance de Christ, de sa relation avec Christ et de son témoignage avec Christ. Et il n'y a pas d'autre puissance. En nous, lorsque nous sommes disposés à aimer, à vivre de Christ et en parler, une puissance peut toucher le cœur des autres pour leur dévoiler leurs péchés et les sauver. mais il n'y a pas de puissance politique et temporelle telle que les hommes le désirent. La seule puissance qui est donnée aux enfants de Dieu, la vraie puissance, c'est celle d'une lumière qui éclaire les ténèbres. Regardons en 2 Corinthiens chapitre 4. Chapitre 4, au verset 2. « En publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » Donc, il faut comprendre que nous nous adressons à quelqu'un ou à plusieurs, de manière à ce qu'ils répondent librement et en connaissance de cause. Verset 3. Si notre évangile est encore voilé, donc mal compris, il est voilé pour ceux qui périssent, donc pour ceux qui sont séparés de Dieu. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, donc il s'agit de Satan, bien sûr, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Donc Satan agit pour aveugler l'intelligence. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Verset 5. C'est Jésus-Christ Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons aux serviteurs à cause de Jésus. Le mot serviteur, doulos, c'est esclave dans le texte. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc il s'agit de Christ. Et Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, c'est Genèse chapitre 1, verset 3. Dans le récit de la création, la terre a été créée, les anges, le trône de gloire, le temple céleste ont été créés, mais la lumière, au verset 3, n'a pas été créée, elle a été manifestée. Elle a un programme d'éclairage sur le monde entier, sur toutes les consciences. Mais le verbe utilisé n'est pas baran, ne signifie pas que cette lumière a été créée. C'est une lumière éternelle, il s'agissait de Christ. Et Paul utilise ce verset de Genèse 1:3 pour dire ceci: Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs, donc a fait briller Christ, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Et où trouve-t-on la connaissance de la gloire de Dieu? Sur la face de Christ. Verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, non pas à nous. Donc nous voyons que nous sommes comparés à des vases de terre, donc tout à fait ordinaires, des vases servant pour le transport de l'huile, du blé, etc. Et pas des vases en cristal, et pas des vases de prix. Et nous sommes habités de cette lumière de Christ, de manière à ce que si la lumière passe à travers cette paroi épaisse, qui en principe n'est pas translucide, ça soit attribué à la qualité de cette lumière, et non pas à la qualité du vase. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Donc nous voyons que la vie de Jésus manifestée dans notre corps, c'est la vie de Jésus ressuscité, évidemment, de Jésus présent et glorieux. Dans les chrétiens non glorieux, les chrétiens humbles, bien limités, circonstanciés dans l'histoire. Donc il n'y a pas de christianisme triomphalisme, en fait. Ce que nous voyons comme triomphalisme chrétien n'est pas du christianisme. C'est une œuvre humaine, si ce n'est pas une œuvre diabolique parfois. Regardons dans Galates, chapitre 5, verset 1. Galates, chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc Jésus nous a affranchis de l'amour du pouvoir, de l'amour de l'argent, de l'amour de l'impureté, de l'amour de la violence, de la rancœur, du manque de pardon. De l'égocentrisme. Il nous a libérés du péché. Et il nous a affranchis, c'est-à-dire qu'il a rompu tous les liens, il nous a donné sur une charte dans un livre de vie, un droit de citoyen dans les cieux, un droit de citoyen, d'enfant de Dieu. Donc, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, ne retournez pas dans la folie des pouvoirs, la folie du sexe, de la cupidité, de l'impureté, dans les propositions de Satan et du monde. Voyons donc bien que Jésus fait une rupture radicale avec le monde et avec ses fausses valeurs. Pour un chrétien, il ne s'agit pas d'agir pour retourner en arrière, pour retourner dans le monde. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, il dit ceci, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Donc, nous voyons que, chers amis, nous voyons que le christianisme ne peut pas s'égaler à une œuvre politique. En aucune manière. Il ne peut se mettre sur le même rang que les recherches de pouvoir qu'ont tous les partis politiques. Et si le christianisme s'allie à des partis politiques pour acquérir du pouvoir, il est déjà sur le point de trahir son maître, son Seigneur. Il faudrait que toute Église fasse la différence entre le monde et elle et ne retourne pas sous le joug, comme dit Paul. Dans Galates, chapitre 5, verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, c'est-à-dire humainement. Rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Toute la loi de Dieu est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous soyez détruits les uns par les autres. Marchez selon l'esprit et n'accomplissez pas les désirs humains, car l'humain a des désirs contraires à ceux de l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint a de contraires à ceux de l'humain. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Donc un chrétien n'a même pas le choix, il doit obéir et il doit faire l'œuvre de l'Esprit. Voilà, j'en ai terminé avec ce point sur l'ère constantinienne. Et bien sûr, il n'y a pas de baptême qui sauve, il n'y a pas de chrétien par le baptême, il y a un chrétien par l'adhésion du cœur, par la découverte de la personne de Jésus et de sa parole, de son enseignement, par sa conversion, sa repentance, par le don du Saint-Esprit. Et donc le christianisme des deux premiers siècles est bien sûr de mise aujourd'hui. Et nous devrions dire adieu à jamais à l'époque constantinienne. Malheureusement, par facilité, beaucoup de personnes veulent continuer dans les stratagèmes du diable, et pour aimer les choses du monde, tout en prétendant aimer les choses de Dieu, ce qui est impossible. Jésus a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, tout le reste vient du malin. Nous aborderons une autre fois le sujet d'un chrétien, peut-il faire de la politique ?